Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Nous sommes ensemble jusqu'à 19h, une émission préparée par Fanny Richet, Mélanie Chalandon, Céline Leclerc, Kieran Jessel, réalisée par Jean-Christophe Francis, à la prise de son, Jean-Frédérix. Autant le fait d'avoir des enfants peut séparer certains couples d'amis pour cause de discordes sur les méthodes d'éducation, autant le fait d'avoir des ados peut au contraire contribuer à renforcer les liens amicaux. Un besoin de se serrer les coudes, une solidarité entre adultes face à ce monde étrange que nous avons pourtant traversé, mais que nous ne comprenons déjà plus, celui de l'adolescence. Et c'est tout l'intérêt des résultats de l'enquête que publie l'UNICEF France ce mardi, que de nous éclairer sur ce que c'est qu'être un ado aujourd'hui. Nous éclairer et surtout nous alerter, car la jeunesse française est en souffrance, nous dit l'organisation. Le grand malaise, c'est d'ailleurs le titre de cette enquête, remise ce matin à la secrétaire d'État à la famille. Alors à première vue, rien de très surprenant si l'on considère que, par essence, l'adolescence est une violence en soi. Mais ce que dit l'enquête, c'est que les privations matérielles et affectives, liées notamment à la crise et aux recompositions familiales, que ces privations accentuent ce mal de vivre. Alors y a-t-il un nouveau malaise adolescent? C'est notre sujet du jour. Et pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir trois invités, à commencer par Michel Barzac. Bonsoir.
Bonsoir.
Ancienne ministre de la Santé et de la Famille, c'était de 1986 à 1988. Depuis 2012, vous êtes la présidente de l'UNICEF France, l'UNICEF qui publie donc aujourd'hui sa deuxième grande consultation nationale des 6-18 ans. Je rappelle le titre de cette enquête, Adolescents en France, le grand malaise. L'échantillon que vous avez consulté est plus que représentatif, puisque plus de 10 000 réponses, plus de 10 000 répondants se sont manifestés pour répondre à votre questionnaire. Nos deux autres invités ne sont malheureusement pas en studio avec nous ici à Paris, mais chez nos confrères de France Bleu, à France Bleu Gironde à Bordeaux. Il s'agit de Xavier Pomereau. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes psychiatre, vous dirigez le pôle aquitain de l'adolescent, le centre Abadi au CHU de Bordeaux. C'est vous qui l'avez créé il y a un peu plus d'une vingtaine d'années, je crois. On vous doit alors parmi vos nombreuses publications, j'ai retenu celle-ci en livre de poche en 2012, mais peut-être préféreriez-vous en donner, citer une autre. J'avais noté « Ado en vrille, mère en vrac ». Voilà, notre troisième invité, lui aussi devant les studios de France Bleu, cette fois France Bleu Béarn à Pau, il s'agit de Jocelyn Lachance. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chercheur en socio-anthropologie à l'Université de Pau. Vous êtes l'animateur du site anthropoado.com. Vous publierez à la mi-octobre, dans quelques jours donc, aux éditions Hermann, série culte et culte de la série chez les jeunes. Alors on va aller dans le détail de cette enquête que publie l'UNICEF France aujourd'hui, Michel Barzac, mais je voudrais peut-être déjà faire un premier constat un peu liminaire. Il ressort de cette consultation nationale que 36% des jeunes interrogés sont en situation de souffrance psychologique. Alors les jeunes interrogés, je vous rappelle, c'était les 6-18 ans. Cette souffrance-là, elle augmente au fur et à mesure que ces jeunes augmentent en âge. Donc elle est plus forte encore chez les adolescents. Est-ce que pour vous, c'est beaucoup ou bien est-ce qu'il faut voir plutôt le côté inverse? C'est-à-dire finalement, il y a une majorité d'adolescentes qui ne sont pas en souffrance psychologique.
Ça dépend du regard qu'on a sur la vie. Vous avez commencé en disant on ne comprend pas les adolescents, puisque notre étude porte spécifiquement sur les adolescents. Pour les comprendre, il faut les écouter. Et c'est ce qu'on a le plus de mal à faire. Et c'est un peu notre vocation. Le travail d'UNICEF, c'est de donner la parole aux enfants et aux adolescents en considérant que c'est un droit fondamental dans la Convention internationale des droits de l'enfant. Donner la parole, c'est un droit fondamental. Et quand on donne la parole, qu'on les écoute et qu'on y met une méthodologie particulière qui rend les réponses, il y avait 150 questions posées à ces adolescents, en majorité des adolescents, on a des résultats qui ont une significativité qui fait confiance.
Alors, vous avez été surprise par l'ampleur de la souffrance exprimée ?
Oui, on a été surpris par on va dire, la souffrance ou les souffrances, parce que c'est une somme de souffrances. Alors, je voudrais commencer par la première, qui a consisté, d'ailleurs, c'était le sujet de notre première étude. Il y a une première souffrance en ce moment dans notre pays, c'est la privation, c'est-à-dire la pauvreté.
Si vous voulez bien, Michel Barzac, on va y aller justement sur ces questions de privation et voir en quoi le contexte, on va dire, politique et économique joue dans la souffrance. Mais je voudrais peut-être qu'on ait déjà une première réaction et de Xavier Pomereau et de Jocelyn Lachance. Xavier Pomereau, je vais me permettre de faire une chose, c'est de vous citer, puisque j'ai vu que vous répondiez à de nombreuses interviews sur l'adolescence, puisque c'est votre spécialité, c'est naturel. Vous dites que l'adolescence est une violence en soi, il n'est pas possible d'imaginer une adolescence tranquille. Est-ce que ça veut donc dire qu'il n'y a pas pour vous d'adolescence sans souffrance et que finalement ce que constate l'UNICEF est assez normal à cet âge-là de la vie ?
Non, je crois qu'il ne faut pas confondre la crise d'adolescence, qui est bon, en effet une souffrance et des souffrances d'ailleurs pour l'entourage, et l'adolescence en crise dont parle Madame Barzac. Je crois que l'enquête là, de l'UNICEF met en évidence en réalité une augmentation du mal-être, du malaise, en tout cas du sentiment de malaise chez les adolescents. Alors c'est vrai que nous aussi ça nous surprend par l'ampleur des chiffres. On a l'habitude en général de dire que environ 15% des adolescents sont en souffrance, donc ce qui veut aussi dire que 85% ne le sont pas, en tout cas pas au point de se mettre en danger. Et là, l'enquête révèle qu'en réalité, le sentiment, sans doute, d'insécurité, et on va le voir probablement en détail sur d'autres points, montre que, en effet, un nombre croissant d'adolescents ne se sentent pas bien. Et ça rejoint ce qu'on constate dans nos consultations. Des jeunes gens qui viennent, qui sont amenés par leurs parents, ils ne sont pas malades. On ne peut pas dire qu'ils sont dépressifs au sens psychiatrique du terme, mais ils traînent un mal-être, un malaise qui les empêche de dormir, qui les angoisse énormément. Ils multiplient d'ailleurs les troubles psychosomatiques, ils ont de l'eczéma, ils ont des allergies. Alors bien entendu, il y a d'autres facteurs qui interviennent bien entendu dans ce genre de phénomène, mais on voit bien qu'en effet, on peut dire que nos adolescents d'aujourd'hui sont beaucoup plus anxieux qu'il y a 10 ou 15 ans.
Est-ce que c'est un constat que vous partagez, Jocelyn Lachance, vous qui êtes anthropologue ?
Oui, tout à fait. En fait, ce qu'on se rend compte, c'est qu'à la crise de l'adolescence, dont Xavier Pomereau parlait, s'est ajoutée une crise de la reconnaissance. Et la crise de la reconnaissance touche des adolescents à différentes intensités. Et parfois, ce sont des adolescents que nous ne repérons pas aussi. C'est-à-dire qu'il y a les adolescents qui sont dans la souffrance la plus aiguë, mais il y a aussi une souffrance un peu plus latente, parfois invisible, qui a été mise en avant dans le rapport. Et en fait, cette crise de la reconnaissance, ce qu'elle révèle, c'est qu'elle met au premier plan la relation non pas entre les adolescents, mais la relation des adolescents aux adultes. Et je pense que le rapport de l'UNESCO nous montre très bien cela lorsqu'on voit qu'une part importante quand même des adolescents disent ne pas pouvoir compter sur ou compter sur les adultes qui les entourent. Et ça, c'est vraiment le caractère ou la dimension, une des plus importantes du rapport, puisque l'UNESCO a osé poser la question aux adolescents si les adultes étaient partie prenante de leur souffrance.
Alors, je précise, hein, ce n'est pas l'UNESCO, hein, Jocelyn Lachance, c'est l'UNICEF qui s'occupe, des enfants. Michel Barzac, alors, c'est vrai que vous évoquiez les privations, mais puisque, finalement, Jocelyn Lachance nous invite à aller sur la question des relations au monde extérieur, et notamment à la famille, qui est une des vraies innovations, j'ai envie de dire, de cette enquête que vous avez menée. Est-ce que, là aussi, il y a un constat partagé que les adolescents sont en manque de repères aujourd'hui ? Et comment est-ce qu'on peut l'expliquer ? Est-ce que les fameuses recompositions familiales multiples et variées contribuent à perdre un peu les adolescents ?
Alors d'abord, je voudrais dire que les deux éléments clés de ces souffrances, c'est la perte de la confiance, c'est la protection et la reconnaissance. Alors, compter sur, compter pour, ce qui vient d'être dit, c'est compter sur, c'est-à-dire qu'on est sûr que ceux qui vous entourent, et en particulier les parents, vont vous protéger. Et compter pour, ça veut dire qu'il y a une reconnaissance, il y a une valorisation de l'enfant ou de l'adolescent dans son milieu familial, mais dans la société en général. Et donc, c'est ces deux éléments, deux piliers, qui vont permettre de se développer. Et évidemment, je confirme que nous ne parlons pas du tout de la crise d'adolescence que nous avons tous malheureusement fait subir à notre environnement.
Et ces deux piliers-là, aujourd'hui, sont fragilisés ?
Mais ces deux piliers-là sont fragilisés. Alors, ils sont fragilisés, mais pas seulement dans la famille. Ils sont fragilisés dans la famille parce qu'on voit très très bien que les relations au père et à la mère sont très... parfois tendus et difficiles, et qu'ils sont rendus plus difficiles par la construction de la famille, mais aussi par tout ce qui l'entoure.
Parce que vous dites notamment dans cette enquête, vous constatez dans cette enquête que, par exemple, la sensation de souffrance, elle est plus importante, elle est vécue de manière plus importante dans les familles recomposées,
non,
dans les familles monoparentales.
Pas forcément, elle peut l'être. Et il est clair que quand on regarde les chiffres, des tableaux qu'on a produits, très souvent on voit qu'elle est plus importante dans les familles monoparentales en particulier, parce que il y a l'absence du père, parce que c'est très souvent les mères qui sont très présentes, et que dès qu'il y a une défaillance de la mère, il y a évidemment une grande fragilisation de l'adolescent, mais pas seulement dans les familles recomposées aussi, mais dans ces familles, ce sont des éléments extérieurs qui viennent se rajouter aux relations à l'égard du père ou à l'égard de la mère, qui sont la pauvreté, qui sont la difficulté d'intégration sociale, qui sont les difficultés à l'école, qui sont l'insécurité, le harcèlement, d'une part, et d'autre part, on voit que c'est plus fort pour les filles que pour les garçons.
Alors évidemment, c'est toute une conjonction d'éléments qui font que cette souffrance est importante.
C'est un lien de différentes souffrances qui correspondent à chacun des environnements de l'adolescent.
Mais essayons quand même de démêler ces différents liens. Xavier Pomereau, est-ce que pour un adolescent aujourd'hui, confronté à une multiplicité de modèles, notamment de modèles familiaux, c'est finalement plus compliqué qu'à une époque où il suffisait peut-être soit de se fondre dans ce modèle, soit de s'y opposer frontalement, mais il y avait peut-être moins de choix, donc moins de souffrance à l'arrivée?
Oui, c'est pas tellement un problème de choix. Je crois que les ados peuvent accepter que leurs parents ne s'aiment plus, que les parents se séparent. Enfin, d'ailleurs, ils le constatent, puisque bien sûr, un sur deux a des parents séparés. C'est pas tellement ça qui les inquiète. C'est, comme le dit Madame Barzac, c'est ce sentiment d'insécurité. Si vous voulez, je vous le résume sous une de mes patientes qui est capable de dire à quoi ça sert de se mettre en couple, puisque de toute façon, on va se quitter. Vous voyez, ça résume une espèce de pessimisme de l'avenir, comme si, de toute façon, comme ça va mal finir, autant ne pas commencer. Et ça, c'est quand même un gros souci quand on est une génération montante et en train, normalement, de s'ouvrir au monde. C'est un sentiment qui est, du coup, angoissant. Et ils observent les adultes, et quand ils regardent les adultes, en plus, au-delà de l'instabilité des relations, ils ont l'impression d'avoir des adultes qui sont pleins de désespérance. Ça, c'est un autre facteur. Je ne sais pas si c'est dans le rapport, mais il y a aussi souvent cette affaire-là. C'est-à-dire, nos parents sont tout le temps inquiets, ils sont tout le temps désespérés, ils ont l'impression que tout est fichu. Une maman disait à sa fille l'autre jour, « Ma pauvre chérie, tes enfants ne connaîtront jamais les poissons ». Enfin, vous vous rendez compte, c'est ce genre de propos terrible pour des jeunes gens. C'est aussi un élément qu'on retrouve, l'insécurité, l'instabilité et la désespérance des adultes. Et ça, je voudrais le dire à nos auditeurs, s'il y a une règle d'or qu'il faut absolument appliquer avec nos ados, c'est miser sur l'avenir, sur leurs compétences, leur capacité d'investir des choses, plutôt que de tout le temps souligner les insuffisances, les leurs et celles du monde qui les entoure.
Jocelyn Lachance, les adolescents ne font que refléter aujourd'hui le malaise que leur proposent les adultes.
Tout à fait, parce que je rajouterais à ce que Xavier Pomereau vient de dire que ce qu'on remarque beaucoup dans les entretiens qu'on mène avec les adolescents, on rencontre des adolescents voilà, qui sont en grande souffrance, mais aussi d'autres voilà, qui vont assez bien à l'école, qui sont intégrés, qui ont des amis, etc. Mais ce qu'on voit qui se répand de plus en plus, c'est en fait des ados qui pointent l'incohérence des discours adultes, des paradoxes entre des groupes d'adultes qui vont se dévaloriser les uns les autres. Donc, c'est très difficile par la suite de s'identifier à des figures adultes lorsque, par exemple, des parents vont accuser des enseignants vont accuser des policiers ou vont se dévaloriser les uns les autres. Et donc, on participe parfois sans s'en rendre compte à la dévalorisation de l'âge adulte auprès des adolescents. Et paradoxalement, on leur demande de grandir et de devenir adultes.
Est-ce que les adultes aujourd'hui n'ont pas certains stigmates de comportement adolescent qui font que, justement, ceux qui sont vraiment adolescents ont du mal à se situer, justement?
Ah, c'est sûr que le culte de la jeunesse ou le jeunisme a quand même un impact important sur les adolescents. Mais ce qu'il faut quand même comprendre, c'est qu'actuellement, on voit de plus en plus d'adolescents qui ne veulent plus être des enfants, mais qui très rarement veulent être des adultes. Hein, c'est-à-dire qu'ils s'identifient en se distanciant des plus jeunes, mais généralement, on nous dit rarement « j'ai envie d'être un adulte ». Et ça renvoie à ce que Xavier Pomereau disait juste avant sur l'image que les adolescents développent maintenant des adultes.
Ce qui fait, Xavier Pomereau, qu'on est adolescent de plus en plus longtemps, ce qui peut aussi expliquer que cette période étant quand même un peu compliquée, le malaise soit d'autant plus important.
Oui, parce que sans doute, là je suis complètement d'accord avec ce que disait M. Lachance, là, c'est vrai que cet aspect est aussi très important. Ils ont l'impression que devenir adulte, c'est devenir angoissé, être préoccupé constamment par le travail, par les angoisses du monde entier, et ils n'ont qu'une envie donc, c'est d'échapper à ça. Et ça, c'est quelque chose qui est terrible et qui explique sans doute bon nombre de débordements avec l'alcool et le cannabis, notamment, qu'on va peut-être le voir un peu plus tard dans l'émission, où ce ne sont pas des jeunes gens qui veulent être toxicomanes, ce sont des jeunes gens qui veulent se lâcher pour oublier les réalités du quotidien et de ce monde que semblent leur proposer les adultes. Et c'est vrai que là, je crois qu'on a vraiment des efforts à faire. Enfin, on ne parle que de manière extrêmement noire, l'avenir est toujours sombre, tout est toujours terrible, on ne va jamais se relever de rien. Tous ces discours-là sont extrêmement toxiques, extrêmement délétères pour les jeunes, alors qu'il faut au contraire les engager, il ne faut pas leur cacher la vérité, mais il faut les encourager au contraire à miser, à s'engager, à essayer de faire des projets, à faire des choses, à les soutenir là-dedans. Et malheureusement, bon nombre d'entre nous ne faisons pas ça. Nous ne faisons finalement que transférer nos propres angoisses sur nos enfants. C'est peut-être ça l'un des problèmes majeurs aujourd'hui de notre société. Au-delà du jeunisme des adultes, c'est la transmission non plus de leurs valeurs, mais de leurs angoisses.
Bah, finalement, Michel Barzac, est-ce que l'enquête de l'UNICEF, elle n'en dit pas davantage sur la façon qu'ont les adolescents de nous percevoir, nous adultes, plus peut-être que sur ce que sont vraiment aujourd'hui les adolescents?
Non, pas du tout. Je pense que les adolescents, dans cette enquête, ils disent ce qu'ils vivent et ce qu'ils ressentent. Et ce qu'ils ressentent aujourd'hui, c'est d'abord, pour un grand nombre d'entre eux, une grande difficulté liée à la pauvreté, à la privation, une grande difficulté de ce fait même de pouvoir s'intégrer facilement dans leur vie familiale, dans leur vie qui vit difficilement, à l'école, avec leurs amis, dans leur quartier. Ils nous disent que leur première préoccupation à l'école, c'est d'avoir peur de ne pas y arriver, d'avoir peur de pas avoir de bons résultats. Parce que pour eux, c'est deux éléments. C'est un premier qui va avec la dévalorisation dont on vient de parler, par le fait que la société, et pas seulement les parents, la société ne valorise pas les jeunes, ne valorise pas les adolescents. Elle les dévalorise, elle les ignore, elle a de la suspicion, elle n'a pas confiance. Et donc, elle ne leur donne pas cette confiance.
La société, Michel Barzac, les a-t-elle jamais valorisées, cette peur qui existe aujourd'hui par rapport au monde de l'emploi? Est-ce qu'elle n'existait pas sous d'autres formes auparavant? Je voudrais, avant qu'on poursuive la discussion, vous faire écouter un court extrait. On remonte, il y a une cinquantaine d'années.
Les aînés refusent d'admettre qu'ils sont les premiers coupables de la culpabilité de leurs descendants. Ce monde en folie, ces guerres, ces violences, ces menaces, cette bombe atomique que les grandes personnes brandissent comme les bébés agitent un hochet, c'est le sujet des conversations quotidiennes des parents devant leurs enfants. Plastique, grenade, bastonnade, ratonnade, mitraillette, revolver, attentat, assassinat, torture. Vocabulaire du quotidien de chaque jour. Alors bien sûr, eh bien, le jeune qui aime la violence, tout naturellement, il s'inspire de ce vocabulaire. Il essaie de le pratiquer lui-même.
Voilà un court extrait d'un reportage d'octobre 1961 sur les problèmes de l'adolescence. Michel Barzac, finalement...
Si je peux réagir.
Je voulais vous faire réagir, justement. La peur, elle prend différentes formes, mais finalement, est-ce que les adolescents n'ont pas été de tout temps confrontés à cette peur? Est-ce que ce qui change peut-être, c'est la forme qu'elle prend, mais pas l'ampleur du malaise?
C'est pas les faits qui ont changé. Des guerres, il y en a toujours eu, des crises, il y en a toujours eu. C'est la façon de réagir à ces faits. La société française, on n'arrête pas de le dire toute la journée, est déprimée et découragée recule devant le fait d'aller de l'avant. Pourquoi, comment voulez-vous que des enfants et des adolescents qui vivent dans ce milieu déprimé, dans cette société qui voit tout en noir, qui ne voit que le fond du trou, comment voulez-vous qui ne sont ni stimulés, ni protégés, ni valorisés, comment voulez-vous qu'ils ne réagissent pas de la même façon avec des peurs qu'ils ne devraient pas avoir à leur âge? Et c'est ça qu'il faut qu'on les aide à retrouver. C'est sortir de l'ensemble de ces différents facteurs qui, se rajoutant les uns aux autres, les font se stopper, les rendent fragilisés, alors qu'on devrait au contraire miser sur eux, parce que c'est eux qui vont représenter l'avenir. Et ils sont très conscients, parce que s'ils ont avant tout peur de ne pas réussir à l'école, c'est parce qu'ils sont bien conscients que s'ils ne réussissent pas, leur avenir sera complètement modifié, freiné, cassé peut-être, et que c'est de ça dont ils ont peur.
Ça, c'est vraiment quelque chose de très nouveau, Jocelyn Lachance.
Ce qui est très nouveau, en fait, c'est vraiment les modalités de la reconnaissance. Et ça, pour comprendre l'adolescence contemporaine, il faut y revenir rapidement. C'est que pendant longtemps, pour sortir de l'adolescence, il fallait rentrer dans un statut adulte, être reconnu comme un adulte. Ça pouvait passer par différentes dimensions de l'existence humaine. Ça pouvait être en devenant père, en fondant une famille, en devenant maman, etc., en travaillant à l'usine comme son père, en trouvant un boulot, etc. La reconnaissance passait par le fait qu'on acceptait des modèles qu'on nous proposait, que les adultes nous proposaient, et en acceptant ces modèles, la reconnaissance allait de soi. Et c'est ça qui va changer aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit à nos adolescents « devenez quelqu'un ». Soyez quelqu'un, construisez votre vie, vous êtes dans une société de liberté, vous avez des choix.
Mais débrouillez-vous tout seul, c'est ça quoi?
Et débrouillez-vous, non seulement tout seul, non pas tout seul, mais après, une fois que les choix sont faits, ces choix-là doivent être validés. C'est-à-dire que la reconnaissance de ces choix ne sont pas nécessairement reconnus d'emblée. Et c'est le nouveau travail de l'adolescent contemporain. C'est-à-dire qu'il va le faire des choix et après, il va devoir faire valider, mais parfois, ça n'arrive pas. Je vais vous donner un exemple très concret. C'est les adolescents qui s'affirment comme étant homosexuels. Donc, c'est un très bon exemple. On leur dit « vous avez le choix ». Il y a un choix qui est effectué, effectivement, mais il n'y a pas nécessairement reconnaissance de ce choix et on connaît évidemment les conséquences. Et c'est ça l'enjeu aujourd'hui, c'est-à-dire que beaucoup d'adolescents vont chercher à faire valoriser leur choix pour qu'ils puissent se penser comme des personnes autonomes. Or, ce que le rapport montre, entre autres, c'est que certains ne trouvent pas cette valorisation de leur choix et de leurs affirmations personnelles.
Cette quête de valorisation de leur choix, Xavier Pomereau, elle s'adresse d'abord à qui? Elle s'adresse d'abord aux adultes ou elle s'adresse d'abord aux autres adolescents? On sait à quel point, enfin on imagine en tout cas, à quel point c'est important d'être intégré dans la communauté adolescente.
Oui, alors le problème, c'est que l'intégration, aujourd'hui, elle passe par ce qu'on montre de soi. On se définit, les adolescents se définissent à travers ce qu'ils montrent d'eux, bien plus qu'à travers ce qu'ils peuvent penser. Du coup, d'où l'importance, bien sûr, des affichages divers et variés, y compris sur les réseaux sociaux. Mais ils sont aussi en position de consommateurs. Et je crois que ce que dit aussi Madame Barzac, c'est que, en réalité, ce qu'on doit absolument essayer de faire, c'est de ne pas les laisser à la place de consommateurs passifs, mais à les mettre à la place d'acteurs. C'est dans tous les sens du terme, c'est-à-dire les amener à leur confier des choses, à leur donner des responsabilités. Au Centre Abadie, on a l'habitude d'organiser un certain nombre de manifestations dans lesquelles les adolescents eux-mêmes s'investissent et ils le font avec enthousiasme, beaucoup de compétences, ils sont tout à fait capables, ils aiment ça. Le problème, c'est que trop souvent, on les laisse en effet en travers du chemin en disant ben, ils sont jeunes, ils ont le temps, tant pis, c'est comme ça, on n'a pas le temps, on n'a pas de temps à leur consacrer. Je crois qu'il faut, vraiment faire attention à ça et aussi au fait que moins on croit en des choses autour d'eux, plus on rend le monde qui les entoure noir, sombre et sans espoir. C'est aussi un problème de croyance. Oui, il ne faut pas avoir peur des mots. Le mot croyance, dans tous les sens du terme, il est toujours très, très important.
Michel Barzac.
Je pense qu'on ne peut pas aborder tout ce qui vient d'être dit, qui est formidablement passionnant, sans parler de l'école. Parce que on vient de parler de la liberté, le choix, la liberté, la reconnaissance. Ce sont des éléments qui sont maintenant hors de l'école, c'est-à-dire qui ne sont pas acceptés massivement à l'école. On n'a pas de choix à l'école, on a juste le choix de suivre ce qui est dit. Il n'y a pas d'écoute à l'école. Les jeunes n'ont pas le droit de s'exprimer, n'ont pas la liberté de s'exprimer. Il n'y a pas de choix.
Sans passer pour le vieux qui n'est plus adolescent depuis longtemps. Est-ce que c'était vraiment différent avant ?
Je veux finir. Il n'y a pas de choix d'être différent. Il y a aujourd'hui à l'école du harcèlement, de la discrimination, de l'insécurité qui sont liées à cette incapacité de cette offre du choix d'être différent, de s'exprimer, d'être écouté, d'être reconnu. C'est pas le modèle de notre école. Notre école, elle est élitiste, elle fabrique de l'inégalité et elle n'est plus en mesure aujourd'hui de couvrir complètement ce qu'elle devrait couvrir, c'est-à-dire apporter bien sûr l'éducation, mais aussi reconnaître ces éléments qui sont consubstantiels de la construction et du développement des enfants et des jeunes.
Alors loin de moi l'idée évidemment, Michel Barzac, de nier tous ces problèmes, mais est-ce que on ne dramatise pas, et est-ce que ça ne fait pas aussi partie des éléments nouveaux dans notre rapport aux adolescents, Jocelyn Lachance, est-ce qu'on ne dramatise pas aujourd'hui ce malaise adolescent, les problèmes de l'école qui écoute peu ses élèves? C'est pas un problème qui date de 2014.
Ce n'est pas nouveau, mais ce qu'on voit apparaître quand même depuis quelques années, on l'a vu nous dans les entretiens qu'on mène avec les adolescents, en fait, on voit des comportements qui apparaissent et qui visent des nouvelles formes d'adaptation à ces contraintes, à cette violence du système scolaire. Par exemple, des adolescents qui nous disent « j'étudie à la dernière minute en permanence » et lorsqu'on creuse un peu derrière, on se rend compte que c'est pour leur laisser une porte de sortie, une possibilité de justification en cas d'échec. Donc, afin de se protéger de la violence de l'échec, ils vont développer parfois des comportements justement qui vont leur permettre de s'en sortir. Donc, il y a quand même une question qui se pose sur la violence effectivement ressentie du système scolaire. Peut-être effectivement qu'il y a des adaptations à penser par rapport à l'adolescence telle qu'elle est aujourd'hui. Et c'est vrai que la reconnaissance de l'initiative y est pour beaucoup. Et là-dessus, je partage l'avis de Michel Barzac.
Xavier Pomereau.
Oui, moi je crois qu'il y a la pression que se font les ados eux-mêmes à l'école. Il y a probablement aussi la crise des enseignants. Je pense qu'il est très compliqué aujourd'hui de savoir en quoi on peut croire à ce qu'on transmet, qu'est-ce qu'on transmet, etc. Je crois qu'il y a une vraie crise de l'école qui évidemment transparaît aussi à travers les adolescents. Mais quelque chose de tout à fait nouveau et de terrible quand même, c'est que, comme le disait l'autre jour une adolescente, la première partie de la semaine, c'est-à-dire du lundi au jeudi, c'est la période prise de tête. Et à partir du jeudi soir, il faut se mettre en mode lâchage le soir pour ne plus penser à tout ça et pas penser qu'à la fin de l'année, il va y avoir des examens, etc. Et le mode lâchage, c'est quoi? C'est boire énormément d'alcool en très peu de temps et éventuellement fumer du cannabis. Tous les lundis matins, je reçois dans mon service au moins 2 adolescents de 16 ans qui ont été retrouvés en coma éthylique et ramenés aux urgences de l'hôpital de Bordeaux. Ça, c'est tout à fait nouveau. J'avais jamais vu, si vous voulez, de coma éthylique chez des jeunes gens il y a 20 ans ou 30 ans. Ça, c'est un signe. Alors, encore une fois, ça ne veut pas dire que tous les adolescents font ça tous les week-ends. Mais enfin, la proportion de ceux qui le font, et on l'évalue, nous, à peu près un adolescent sur 7, c'est quand même beaucoup, c'est 15%, ça signifie quelque chose. Ça veut pas dire je suis malade ou je suis un futur alcoolique ou un futur drogué, ça veut dire c'est insupportable pour moi cet excès de tension et il faut que par moment je puisse me lâcher complètement pour oublier tout ça, pour ne plus penser à tout ce qui m'angoisse au jour le jour.
Pour 6 élèves sur 10, le premier verre d'alcool, c'est avant même d'entrer en 6e qu'on en fait l'expérience, avec du cidre, voire du champagne. Une consommation qui progresse vite au fil des années collège, vers la bière et les alcools forts, et ce à une fréquence régulière qui inquiète les professionnels. La moitié des élèves de 3e et 3/4 des élèves de terminale affirment boire de l'alcool tous les mois. À l'heure du bac, 7 lycéens sur 10 ont déjà connu l'ivresse.
Ma première cuite était à 13 ans. Ce soir, mon quota, ce sera 2 bouteilles. Voilà.
Une vingtaine de shots de vodka. Non, mais elle rigole pas. De vodka, d'alcool mélangé, etc.
C'est de la honte, hein. J'en suis pas fier. J'ai fait presque un coma éthylique l'autre fois.
Voilà, extrait de 2 reportages qu'on a trouvé sur Internet, hein, qui vient de la chaîne France 5, un autre de BFM TV sur les adolescents et l'alcoolisme. Ça nous permettait d'illustrer un petit peu ce que vous avez dit, Xavier Pomereau. Jocelyn Lachance, cette alcoolisation importante chez les adolescents aujourd'hui, elle témoigne davantage d'une façon contemporaine d'exprimer sa souffrance que d'un rite initiatique qui serait celui de l'adolescence d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il faut en passer par là aussi pour devenir un adulte.
Il y a 2 dimensions. Le rite initiatique n'est pas nécessaire en ce sens, hein. Mais c'est sûr que la prise de risque, on le sait depuis longtemps, la mise à l'épreuve sous le regard des pairs participe bien sûr d'une forme de reconnaissance aussi par les autres, etc. Mais ce qu'on voit surtout apparaître aussi, c'est la recherche d'une intensification de l'émotion, hein, une recherche d'intensification émotionnelle. Hein. Il faut se rappeler quand même qu'on crée des liens à l'autre dans l'émotion. Hein. Si vous pensez à vos amis, aux gens que vous aimez bien autour de vous, généralement, vous avez vécu des événements significatifs forts, vous avez vécu des émotions importantes et souvent, on se le rappelle entre nous. Et en fait, on se rend compte que dans cette société où les adolescents sont souvent en quête du comment. Comment faire pour rencontrer l'autre? Comment faire pour dire que je l'aime? Comment faire pour rompre, etc.? Le comment? On cherche de plus en plus des manières d'entrer en contact, de créer des liens forts. Et on se replie sur une logique anthropologique qui est très, très simple. C'est-à-dire, on crée des émotions les plus fortes possibles. Et bien souvent, l'alcoolisation va servir cette intensification émotionnelle. Et d'ailleurs, on se rend compte aussi que l'usage de l'appareil numérique va aussi participer à cette intensification émotionnelle. C'est-à-dire qu'on peut filmer, documenter des moments forts ou considérés comme forts pour ensuite les partager, les revisionner et vivre l'émotion à son comble.
Xavier Pomereau, est-ce que le suicide et les tentatives de suicide appartiennent à cette catégorie de l'intensification émotionnelle ou est-ce qu'on est encore dans autre chose?
On est, de toute façon, l'un n'empêche pas l'autre. On est, dans des interrogations identitaires, au sens large du terme, et on revient à ce qui était dit tout à l'heure. C'est-à-dire que, en effet, à la différence d'une société où on a une place qui est finalement un peu définie par le groupe auquel on appartient, aujourd'hui, les adolescents sont sommés de se définir tout seuls, et paradoxalement, évidemment, ils vont le faire en s'appuyant sur le corps groupal de leur père PAIRS à travers un certain nombre, en effet, d'épreuves, de défis et de forts besoins de reconnaissance. Parce que, comme le dit M. Lachance, il y a bien sûr cet aspect de trouver des émotions fortes. Il y a aussi cette espèce d'hyperconformisme consistant à le partager avec les autres pères et à le montrer pour se faire reconnaître. N'oublions pas que le modèle de la page de Facebook qui marche bien, c'est de pouvoir être populaire à travers ce qu'on y publie. Il y a une quête de reconnaissance, il y a quelque chose qui est là, constamment en train de dire « j'ai besoin d'exister, je ne sais pas comment le faire, tout seul, je n'y parviens pas, je veux m'appuyer sur les autres, les adultes me semblent être un peu du sable mouvant, alors j'essaie de m'appuyer sur le corps des pères. »
Et à quel moment est-ce qu'on passe du « j'ai besoin d'exister » ou « je n'ai plus envie de vivre » ?
Mais oui, alors c'est pas « j'ai plus envie de vivre », j'ai envie de vivre autrement. C'est tout le paradoxe, si vous voulez, du suicide. Le suicide, c'est une... On pense au suicide quand on est confronté à quelque chose qui semble être une impasse. On a l'impression que c'est indépassable, qu'on ne peut pas y arriver. Donc c'est une manière de dire... Je règle le problème et je reprends la main, en quelque sorte, sur mon destin. Et en même temps, un secret espoir, qui est bien sûr tout à fait inconscient, que quelque chose va changer, que soit on va avaler des cachets et se réveiller, et ça, l'entourage va modifier ses attitudes, il va y avoir des remaniements affectifs plus favorables, soit il va rien se passer. En effet, on va basculer de l'autre côté et on existera davantage, finalement, mort que vivant, en occupant à jamais la mémoire de ceux qui vont rester. Ce qui est le constat le plus terrible que je fais au bout de 30 ans de m'occuper, si vous voulez, d'adolescents suicidaires, c'est une revendication identitaire majeure et terrifiante, exister aux dépens de la mémoire de ceux qui restent. Et les pauvres parents et les pauvres entourages qui en sont victimes, qui sont des endeuillés, comme on les appelle, les endeuillés par suicide, malheureusement, ont besoin très souvent d'aide parce qu'ils sont confrontés à cette difficulté-là. Le suicidé veut exister en quelque sorte davantage mort que vivant.
Michel Barzac, la tentation du suicide, ça fait partie de l'enquête justement de l'UNICEF.
Ça fait partie de l'enquête. Les chiffres qu'on a définis dans cette enquête sont importants, puisque on dit qu'il y a, en étant très prudent bien sûr, qu'il y a 28% d'adolescents qui ont l'idée du suicide, et il y en a 11% qui ont qui passent à la tentative de suicide. Les questions qui ont permis de construire, de définir cette souffrance psychologique sont de trois ordres. Ce sont des adolescents qui ont répondu oui, vraiment, à il m'arrive d'être triste et cafardeux, il m'arrive de n'avoir plus goût à rien, il m'arrive de perdre confiance en moi. C'est-à-dire un ensemble de questions qui reprennent des choses que nous avons égrenées tout au long de ça. Mais il y a aujourd'hui des tentatives de suicide plus importantes qui sont liées aux réseaux sociaux et qui sont liées à des adolescents qui ont été harcelés ou qui ont été... détruits par tout ce qu'ils avaient essayé de mettre en scène sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'il y a quand même 90% d'adolescents qui sont aujourd'hui sur les réseaux sociaux, et en majorité des filles. Et on voit très bien des destructions fortes de jeunes qui ont fait beaucoup de tentatives de mise en scène d'eux-mêmes, c'est-à-dire on revient à la question de la valorisation et de la reconstruction, la construction de l'estime de soi vue par les autres et une agression liée au harcèlement ou à des attaques qui se font sur les réseaux sociaux.
Juste d'un mot, Xavier Pomereau, les adolescents d'aujourd'hui font davantage de tentatives de suicide et se suicident davantage, ou bien est-ce que malgré tout les actions de prévention portent leurs fruits ?
Non, les statistiques officielles montrent que les décès par suicide chez les jeunes restent faibles et même diminuent un peu depuis quelques années. Par contre, les tentatives de suicide, et notamment les tentatives de suicide chez les jeunes filles, semblent en effet en augmentation à travers ce qu'on peut recueillir dans les services d'urgence de nos hôpitaux. Et ça, c'est inquiétant parce que ça vient en effet très souvent, les motifs, c'est ça, c'est une rupture rupture, mais c'est aussi le fait d'être harcelé, d'être attaqué sur son image, sur ce qu'on est, sur ce qu'on montre de soi. Et c'est tout le paradoxe, et ça, c'est presque une autre émission.
Comment... Eh bien, ce sera justement peut-être l'objet d'une autre émission. Merci beaucoup, Xavier Pomereau, puisque effectivement, celle-ci se termine. Merci à vous d'avoir été en duplex des studios de France Bleu Gironde à Bordeaux. Merci à Jocelyn Lachance, qui lui était à France Bleu Béarn à Pau. Et merci à vous, Michel Barzac. Vous pourrez réécouter cette émission comme chaque jour pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an.